Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction qui inaugure une nouvelle saison du Rendez-vous de la Réaction. Ce soir, nous allons rétablir quelques vérités sur le terrorisme communiste pendant la guerre et sur le gigantesque massacre auquel il a abouti en 1944. Massacre de Français par les communistes. Cela nous permettra de comprendre comment nous sommes arrivés à l'existence de cet État, qui est totalement gangréné par l'extrême gauche. Et vous l'avez compris, cela m'obligera à réfuter les travaux de Madame Lacroix-Rise sur le sujet, puisqu'elle avait, commis cet ouvrage, vous savez où il va finir, hein, La non-épuration en France. Voilà, donc on va en parler. Alors, comme vous le savez, nous faisons quelques petites annonces habituelles pour réagréger la qualité françoise. Alors, tout d'abord, si vous cherchez un bon bouquin, vous savez que vous pouvez aller chez nos amis de la librairie française, 202 rue Le Courbe. Et aussi, vous pouvez aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert Bellarmin, qui vient de faire un succès absolument triomphal. Avec la vente du missel Lefebvre, qui s'est écoulé en un éclair. Voilà. Le missel sera, je crois, si je ne dis pas de bêtises, bientôt réédité. C'est très important d'avoir un bon missel, chers amis, donc je ne peux que vous y renvoyer. Missel qui a été, dont beaucoup de clercs ont contribué, je dirais, à faire la promotion, et nous les en remercions. Ensuite, les vrais, vous le savez, les vrais peuvent aller sur le site des éditions Les Stockades. Notamment pour le dernier bouquin de votre serviteur, que voici, Le roi, le dauphin et le connétable, qui est la véritable histoire de Vichy, et dont je vais me servir aujourd'hui, justement, pour réfuter, fait à l'appui, donc les travaux de Madame Lacroix-Rise. Par ailleurs, je salue je salue le public qui a fait confiance à Éric Leclerc, que ce soit pour son livre sur Sainte Marguerite Marie à la Coque, Louis de Frotay ou Saint Jean-Marie Vianney. Ça n'allait pas de soi que le public suive, et eh bien nous vous en remercions. À ce sujet d'ailleurs, Éric Leclerc fera des dédicaces. Alors il en fera une dans le Calvados, aux fêtes médiévales d'Argence la semaine prochaine. Je crois que c'est sur plusieurs jours d'ailleurs. Voilà. Donc, si vous voulez rencontrer Éric Leclerc et que vous êtes de la région, vous pouvez aller le voir là-bas. Ensuite, le 20 septembre, le samedi 20 septembre, Éric Leclerc fera une séance de dédicace à la librairie Duquesne à Paris. C'est avenue Duquesne en face du ministère de la Santé. J'ai plus l'adresse exacte, excusez-moi. Et enfin, Éric Leclerc fera une dédicace au Hyper U de la ville de Douvres de la Délivrande de 9h à 17h le 27 septembre. Et je ferai pour ma part une conférence à la chapelle Saint-Pie-V de Rennes ce week-end. Voilà. Donc dimanche, je n'ai plus le jour exact, mais dimanche qui arrive, je ferai une conférence à Rennes sur mon dernier livre, tout simplement, voilà. Sur lequel il y a beaucoup à dire. J'en veux pour preuve qu'on consacre plusieurs émissions et que la prochaine émission sera encore sur mon bouquin, puisqu'on traitera de Vichy et la question juive. Voilà, je vous invite à ne pas la louper non plus. Vous savez aussi que nous faisons des appels aux dons. Donc déjà, appel aux dons pour des écoles, pour l'école Les Trois-Saint-Jean en Belgique, pour Notre-Dame Auxiliatrice dans la commune de Béton. Tous les liens sont en description. Et vous pouvez aussi faire un don pour nos amis du monastère du L'Œuvre de l'Étoile. Et vous pouvez aussi faire un don à la radio, puisqu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, chers amis, et que nous avons besoin de munitions pour combattre. Je vous annonce que mon ouvrage, aussi L'Équivoque vaincu par le magistère que vous voyez ici, qui était en rupture de stock, est réimprimé. Et ça tombe bien, puisque j'avais fait une erreur de latin assez sale, hein, faut bien le reconnaître. Hein. Je ne suis pas du tout latiniste, hein, pardonnez-moi. Et ben elle est corrigée, voilà, dans la nouvelle édition. Alors ça ne change strictement rien au fond, mais ça fait des coquilles en moins de latin, c'est toujours ça de prix. Ce livre, les vrais le savent, démontre que le rite de consécration épiscopale promulgué par le félon Montini Paul VI est invalide, parce que tout simplement il n'y a pas de signification de la forme de l'épiscopat dans la prière consécratoire. Voilà. On en a beaucoup parlé. N'hésitez pas à aller sur le site, sur la chaîne YouTube, pardon, Défense de la foi. Et sur Défense de la foi, il y a quelques semaines de cela, on a fait une vidéo montage dans laquelle on reprend justement ma démonstration sur ce sujet. Et non seulement je le démontre, mais ensuite je démystifie les sophismes des modernistes conciliaires et des lefévristes pour essayer de sauver cet attentat contre les âmes qu'est, ça s'appelait Romani Pontificalis, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, ce rite de consécration, entre guillemets, épiscopal montinien, est un attentat contre les âmes. Voilà. Bon, on va pouvoir attaquer sur le sujet du jour. J'espère que je n'oublie rien. Il y a une tradition qui veut que j'oublie toujours plein de choses. Alors, l'émission de ce soir, chers amis, vise à faire passer 4 messages. Vous savez qu'à ce micro, on essaie d'être pédagogique pour faire passer des messages que vous retenez et pour que vous soyez à votre tour des défenseurs de la vérité. Premier message. Il est simple, mais pas assez souvent dit. Les communistes ont trahi la France pendant la guerre. Les communistes ont trahi la France pendant la guerre. Et il y a eu une triple trahison. La première trahison, vous le savez, c'est l'alliance avec le nazisme en 1939, qu'on appelle pudiquement germano-soviétique. C'est national-socialiste ou nazi-soviétique qu'il faudra dire pour être plus précis. La deuxième trahison, c'était la campagne terroriste communiste qui a duré de 1941 à 1943, qui n'est aucunement assimilable à de la résistance, à tel point que des résistants eux-mêmes s'en sont plaints. On va commencer par faire peut-être tout de suite, je voulais la faire un peu plus tard, mais pourquoi pas la faire tout de suite, une citation du général Revers. Le général Revers était le chef de l'ORA, l'organisation de résistance dans l'armée, donc un des plus grands résistants de France. Et celui-ci, en 1944, écrit ceci. La campagne terroriste, il est résistant, on est pendant la guerre. La campagne terroriste, déraillement, attaque de magasins et de mairies, dessert la résistance, surtout chez les paysans et dans la classe moyenne. La campagne allemande et gouvernementale qui identifie Alger avec l'anarchie y gagne et, alors qu'elle était sans effet il y a quelques mois, trouve maintenant de larges échos. Les communistes ont trahi la France, premièrement par leur alliance avec le nazisme en 1939, deuxièmement par la campagne terroriste entre 1941 et 1943, troisièmement par le massacre de Français lors de l'épuration. Deuxième message. Il n'a pas existé de résistance communiste. On a pu trouver peut-être des individus communistes résistants, mais il n'y avait pas d'organisation de résistance dont l'objectif premier était la seule libération du territoire. L'objectif des terroristes communistes était de renverser le régime avant toute chose. Troisièmement, les communistes maquisards, ce qui est quasiment synonyme, ont massacré des dizaines de milliers de Français. Des dizaines de milliers de Français à cette époque. Si Pétain avait fait le dixième de cela, croyez bien qu'on en parlerait tous les jours, qu'il y aurait des plaques commémoratives des martyrs de la République à tous les coins de rue, et qu'il y aurait chaque semaine un documentaire sur Arte pour parler de la question. Quatrièmement, c'est à cause des manœuvres d'Hitler en août 1944 que le communisme s'est installé si facilement en France, en 1944 donc. On ne peut pas comprendre l'époque sans connaître le chaos terroriste dans lequel les communistes ont plongé la France. C'est comme si vous vouliez parler du quinquennat Hollande sans évoquer les attentats islamistes. Bah, ça ne serait pas sérieux. On passerait à côté d'un pan essentiel de ce quinquennat. Vous voyez ? Bah, c'est pareil avec Vichy et le terrorisme communiste. Notre système, retenez bien cela, est né des massacres de ces Français et de l'omerta autour des massacres de ces Français. Je me souviens de Mélenchon en 2012, lors de la campagne présidentielle, qui disait « Les communistes n'ont pas du sang jusqu'au coude ». Réponse, si. Si, ils ont du sang jusqu'au coude. Si vous regardez l'histoire du communisme, il n'y a aucun doute là-dessus, monsieur Mélenchon. Pas qu'en France, et la France peut paraître un pays épargné au regard des boucheries qu'il y a eu, comme vous le savez bien entendu, en Russie, en Chine, etc. Je vais être amené à réfuter les travaux de Madame Lacroix-Rise sur l'épuration. Madame Lacroix-Rise est une historienne bien connue. C'est une communiste revendiquée. Elle a au moins le mérite de la franchise. Mais elle n'est pas populaire, je dirais uniquement, dans les sphères d'extrême-gauche. Elle est également très populaire dans ce qu'on appelle la sphère de la dissidence, et elle est extrêmement relayée par les sphères de la dissidence. Pourquoi ? Parce que ce qui caractérise la dissidence, c'est le conspirationnisme. Or, Madame Lacroix-Rise est conspi, tout simplement. Donc elle est relayée, c'est dans la nature des choses. Madame Lacroix-Rise a inventé le giga complot cagoulo-synarco-patronal pour justifier la trahison de 1939 des communistes. Et elle a la méthode conspi. Qu'est-ce que c'est les méthodes conspi, chers amis ? C'est qu'on prend un fait qui existe et on lui donne une portée qu'il n'a absolument pas. Je vais vous donner deux, trois petits exemples. Alors, Annie Lacroix-Rise, alors je ne sais pas si c'est de l'humour involontaire ou volontaire, nous parle, page 46 de son ouvrage, que j'ai eu le malheur de lire, mais c'était pour la cause. On s'accroche. Le rôle militaire déterminant de la résistance dans la libération de la France. Ah ! C'est comme si on parle de la résistance des boomers contre la dictature, enfin la tyrannie sanitaire. Vous l'avez vu, Pierre Tirmont, la résistance des boomers à la tyrannie, pas tellement. Moi, non. Moi, à Paris, je ne l'ai pas tellement vu. Voilà. Bah, c'est du même ordre de schisme avec la réalité. Et alors, on va voir l'argument bidon, qui est fascinant, en fait, tellement il est énorme. On s'accroche, page 47. La résistance intérieure, baptisée par Albert Speer, l'armée des partisans, inquiéta assez les Allemands pour les contraindre à porter en France leurs troupes de 27 à 48 divisions entre novembre 43 et avril 44. Donc, Madame Lacroix nous dit, il y a une augmentation des troupes allemandes entre novembre 43 et avril 44, et c'est dû à la résistance française. Objection toute bête. Est-ce que c'est pas plutôt parce que les Allemands redoutaient de plus en plus l'imminence d'un débarquement allié? Restons sérieux, 3 secondes et demie, si c'est pas trop demandé. Bon. Donc vous voyez, on prend un fait et on lui fait dire n'importe quoi. Autre exemple. Vous savez qu'à la libération, des dizaines de milliers de femmes ont été tondues parce qu'on les a accusées d'avoir, disons-le, eu des relations sexuelles avec des soldats allemands. Parfois c'était vrai, parfois ce n'était pas. Et on estime à 20 000 femmes qui se sont fait tondre à la libération. Mais Madame Lacroix-Rise nous plaide qu'il n'y a pas eu d'épuration et qu'il n'y a pas eu de violence contre des personnes qui n'étaient pas des traîtres. Alors que nous dit-elle ? Elle nous dit que les femmes tondues l'ont été pour des motifs autres que des délits sexuels. Vous allez voir le sophisme, qui encore une fois, qui est tellement énorme, on se demande comment elle peut créer ça sérieusement. En plusieurs années de dépouillement des fonds de justice, dont l'énorme série BB18, je n'ai pas rencontré de femmes tondues ou persécutées pour délits sexuels exclusifs. Je n'ai relevé que des cas de femmes haïes pour leur collusion avec l'occupant, létales pour leur entourage ou leur voisinage, jamais limité à la collaboration horizontale et qui avait reçu des menaces de longue date. Mais pourquoi c'est un sophisme, chers amis ? Annie Lacroix nous dit « Je n'ai pas trouvé de femme exclusivement condamnée, persécutée, pour seul délit sexuel dans les archives de la justice. » Mais par définition, les femmes qu'on retrouve dans les archives de la justice sont des femmes qui sont concernées par des infractions pénales. Or, ce qu'on appelait à l'époque la collaboration horizontale, un peu familièrement, n'était pas considérée comme une infraction. Donc les femmes qui n'avaient que ça à se reprocher n'étaient pas dans ces archives. Est-ce que je suis clair, Pierre-Assermont ? Il faut me le dire hein, si je ne suis pas clair. Donc vous voyez, c'est un sophisme énorme. C'est-à-dire qu'on prend un fait qui existe et on lui fait dire quelque chose qui n'existe, enfin, quelque chose qui n'a rien à voir et qui n'a jamais existé. Voilà. C'est aussi simple que cela. Donc c'est la méthode conspi. On prend un fait, on lui fait dire ce qu'il ne dit pas. Bon. Alors, disant cela, je ne dis pas que tout est faux dans le livre de Madame Lacroix. Je ne dis pas qu'il n'y a rien d'intéressant. Très franchement, j'ai trouvé des choses intéressantes. Je le dis avec honnêteté intellectuelle. Elle a trouvé des documents que j'ai trouvés très intéressants, notamment un qui confirme que les officiers de l'armée de la Revanche, forgés par Végan, relancés dans la guerre par Vichy, plus précisément par Darlan le 13 novembre 1942, ces officiers n'aimaient pas de Gaulle et le rejetaient. Bon. Il y a un document notamment qui est un rapport de Soustelle très intéressant. Donc je ne dis pas que tout est faux, mais je dis que le regard global est biaisé et qu'on raconte une histoire qui n'existe pas. Et je dis que Mme Lacroix, par moments, fait dire à des faits ce qu'ils ne disent pas et fait dire à des archives, car elle est très fière de ses archives, Mme Lacroix, elle fait dire à ses archives ce qu'elles ne disent pas, notamment ces fameuses archives de la justice. Voilà. Alors, quelle est la thèse principale de Mme Lacroix que nous allons réfuter ce soir ? C'est la suivante, c'est celle du système d'ailleurs. Hein. Les communistes ne font que radicaliser les principes droit-de-l'hommistes et les mythes droit-de-l'hommistes. Hein. Citation, page 58. Quant aux assassinats politiques sévissant depuis le printemps et surtout l'été 43, ils n'avaient jamais mis en cause des populations à qui on ne pouvait reprocher que délits d'opinion, appartenance sociale ou religieuse. Les milieux frappés ne l'étaient pas comme supplétifs de l'occupant, les milieux frappés, c'est l'inverse, ne l'étaient que comme supplétifs de l'occupant. Ainsi que l'avait admis Abetz en décembre 43 à propos des attentats et assassinats de novembre en forte croissance. Donc, Madame Lacroix nous dit, les personnes qui se sont fait massacrer l'ont été parce qu'elles étaient des supplétifs de l'occupant et non pas parce que c'était un massacre ciblé, fait par les communistes pour faire leur, entre guillemets, France nouvelle. Eh bien, nous verrons dans quelle mesure cela est vrai. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer avec la première trahison, qui est, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, comme je le répéterai, l'alliance du communisme et des communistes avec le nazisme en 1939. Le 23 août 1939, l'Union soviétique et le Troisième Reich signent une alliance. Officiellement, c'est un simple pacte de non-agression. En réalité, c'est plus que cela. Déjà, premièrement, parce qu'on définit des zones d'influence respectives pour chacun des deux camps. Et il y a également des clauses militaires. Sur 75 députés communistes en France, 22 désapprouvent l'alliance avec le nazisme et quittent le parti communiste. Les autres députés communistes approuvent cette alliance avec le nazisme. Le 17 septembre, alors que la Pologne est attaquée par l'Union soviétique, et que l'armée de Gamelin d'ailleurs, est attaquée par l'Allemagne nazie, et que Gamelin d'ailleurs ne va pas en aide à la Pologne, le 17 septembre, c'est l'armée de l'Union soviétique qui attaque dans le dos, lâchement, l'armée polonaise. Donc on voit bien qu'il y avait un accord militaire entre les deux blocs. Le 26 septembre, Daladier dissout le parti communiste dit français, au grand scandale de Léon Blum, je précise, et les députés communistes vont alors créer un nouveau groupe parlementaire qui s'appelle Ouvriers et Paysans. Le 28 septembre, De nouveaux accords sont signés entre l'Union soviétique et le Troisième Reich, selon lesquels, en échange de produits industriels venant d'Allemagne, l'Union soviétique donnera des matières premières au Reich, ce qui permet au Reich de contourner le blocus fait par la marine angloise. Donc il y a une alliance militaire de fait. Le 1er octobre, 36 députés communistes signent une lettre qu'ils adressent au député Édouard Horiot, qui est à l'époque président de l'Assemblée nationale. Et dans cette lettre, ils demandent que soit signée une paix. Ils veulent la paix tout de suite. Une paix au moment où la Pologne est envahie. Donc les députés communistes se prononcent pour une paix hitlérienne. Ni plus, ni moins. Dans la nuit du 3 au 4 octobre, Maurice Thorez, qui est alors mobilisé, déserte. Et le 28 novembre, il est condamné par le tribunal militaire d'Amiens à 5 ans de prison. Le 17 février 1940, un décret du président de la République, Albert Lebrun, prononce la déchéance de nationalité française de Maurice Thorez, mesure que j'approuve. Les 36 députés communistes qui avaient signé la lettre à Herriot sont arrêtés. Et le 3 avril 1940, ils sont condamnés à 5 ans de prison pendant que les autres députés communistes ont gagné la clandestinité et sont en fuite. À partir du moment où le Parti communiste s'allie avec le nazisme, des militants communistes en France travaillent au sabotage de la production militaire française. Je cite très longuement Daladier qui donne des chiffres et des faits lors de son passage devant la commission parlementaire de 1947. Il nous évoque qu'il y avait 117 dossiers qui avaient été traités à ces faits au ministère de l'Intérieur et que le 1er mars 1940, 335 personnes étaient internées pour ces faits de sabotage. Et il y a même eu, à l'époque, chers amis, des condamnations à mort, notamment les frères Rambaud et Lebeau. Citation de l'article du Petit Parisien du 28 mai 1940. Ils ont commis les crimes reprochés de février à mai dans une usine de construction d'avions de la région parisienne. Ils sabotèrent des moteurs par une malfaçon, provoquant un égouttement d'essence sur le tuyau d'échappement et par suite un incendie à bord. De fait, un appareil ainsi saboté prit feu et son pilote trouva une fin tragique. Voilà. Donc, dans cette affaire, le jeune Rambaud est arrivé à saboter jusqu'à une vingtaine de moteurs par jour. C'est monstrueux. Et Daladier évoquera aussi en 1946 à l'Assemblée constituante qu'il y a eu des sabotages dans les casemates de la région fortifiée de Boulay, des sabotages de fusées d'obus et de balles d'antitank. Les usines Renault également ont été sabotées par des communistes. Donc retenez une idée maîtresse, chers amis. Les communistes ont collaboré avec le Troisième Reich avant même l'occupation. On répète, les communistes ont collaboré avec le Troisième Reich avant même l'occupation. Étant précisé que sa collaboration n'a rien à voir avec celle de Vichy. Parce que qu'est-ce qu'on a appelé la collaboration avec Vichy ? C'est le fait que Vichy a été obligé et les dirigeants de Vichy s'en seraient bien passés, de négocier avec le Reich parce que le Reich réquisitionnait les matières premières. Matières premières dont on avait besoin pour faire tourner l'économie et pour nourrir la population. Voilà. Donc, dans l'idéal, évidemment, le régime se serait passé de ça. Mais comme le régime a voulu nourrir la population, il a été contraint de négocier avec les Allemands. Mais j'ai pour habitude de dire, peut-être qu'ils ont eu tort et peut-être qu'il fallait laisser les Français mourir de faim par millions. Hein. Ça, c'est pas impossible. Hein. Je peux me tromper là-dessus. Hein. Je prends du recul sur mon propre propos. Donc voilà pour la première trahison. On en arrive à la deuxième. Suite au déclenchement de l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion de l'Union soviétique par le Troisième Reich, le Parti communiste s'engage non pas dans la résistance contre l'occupant, mais dans le terrorisme contre la population française et le régime. Le Parti communiste fait le choix de la guerre civile. Et je répète, cela n'est aucunement assimilable à la résistance authentique qui visait à entraver l'effort de guerre militaire allemand. Dans une première phase, les communistes vont assassiner des officiers allemands, en sachant très bien qu'il y aura des représailles. À Paris, il y a eu deux rafles, enfin il y a eu trois rafles en 1941, et les deux dernières, donc celles d'août et de décembre, ont lieu en raison de représailles des Allemands contre les attentats communistes. On attend encore la repentance du Parti communiste. Et je précise au passage, en prenant de l'avance sur ma prochaine émission, que Vichy n'a rien à voir avec ces rafles, puisque les Allemands ont procédé eux-mêmes aux rafles, soit ont réquisitionné la police française sans demander au gouvernement, puisque la police française, au titre de la Convention de La Haye, devait obéir de toute façon à l'occupant. Voilà. On en reparlera plus précisément la prochaine fois. Le 21 août 1941, un terroriste communiste qui s'appelle Pierre Georges assassine dans le métro de Barbès l'aspirant Meuser. En réaction, Hitler demande à ce que 100 otages communistes soient fusillés. Le gouvernement va-t-il laisser 100 otages communistes se faire fusiller ? Non. Vichy négocie avec les Allemands et les Allemands acceptent que ne soient fusillés que 6 otages. Mais pour cela, eh bien, Vichy va créer ce qu'on appelle les sections spéciales et les tribunaux d'État, qui sont des juridictions qui sont attentatoires au droit commun. En tant que telles, elles sont condamnées et effectivement, elles sont condamnables. Mais n'oublions pas qu'elles sont le fruit des attentats communistes et que sans ces attentats communistes, le régime ne les aurait pas créés. Le 15 septembre, un autre officier allemand se fait assassiner. 12 otages, cette fois-ci, sont fusillés. Et le 21 septembre, De Gaulle prend position et il incite à ne pas tuer d'officier allemand parce qu'il sait que, parce que dit-il, si on tue des officiers allemands, il y aura des représailles sur la population. Plus tard, il aura un autre discours, une autre action en tout cas. Mais là, en tout cas, le 21 octobre, il les condamne. 21 septembre, pardon, il les condamne. Le 20 octobre, à Nantes, le lieutenant-colonel Holtz, qui était en plus francophile, se fait assassiner par le terroriste communiste Gilbert Brusselin. Hitler exige alors 100 fusillades. Mais Vichy va négocier, une fois encore, va faire pression. Enfin, c'est plutôt, dans un premier temps, c'est le chef de l'armée allemande en France, qui s'appelle von Stupelnagel, je crois, qui va négocier avec Hitler que seulement 50 otages soient fusillés, mais il négociera que si on ne trouve pas l'assassin, 50 autres seront fusillés. Pour calmer le jeu, que font les communistes le lendemain, chers amis ? Le lendemain, à Bordeaux, les communistes assassinent un conseiller militaire allemand, Hans Reimer. Une fois encore, Hitler exige 50 exécutions d'otages qui ont lieu. Et il y en aura 50 autres si on ne trouve pas l'assassin. Donc 100 otages sont assassinés et 100 autres risquent de l'être. Les otages, à l'époque, étaient sélectionnés principalement parmi les communistes. Était-ce moralement normal ? Voici l'avis de M. René Belin, qui était le premier ministre du Travail du régime de Vichy, qui était un ancien de la CGT. Citation. Pourquoi dans les affaires d'otages, les innocents n'auraient-ils pas été protégés ? Et pour quelles raisons les provocateurs auraient-ils dû échapper par priorité à la répression qu'ils appelaient expressément de leurs vœux et qu'ils suscitaient délibérément par leurs actes ? Ils étaient tous innocents, les otages de Chateaubriand ? Sans doute pris individuellement. N'empêche qu'il y en avait qui étaient plus innocents que d'autres. C'eût été commode de faire semblant de l'ignorer, c'eût été une lâcheté. Mais Vichy va sauver encore 100 otages communistes, chers amis. Puisque Pierre Pucheux va aller en voiture, de nuit même, de Vichy à Paris, il fonce pour négocier avec von Stupelnagel et pour que les 100 otages dont la vie est encore, je dirais, en suspens, eh bien, pour que ces 100 otages ne soient pas fusillés. Et il va l'obtenir. Donc Pucheux a sauvé la vie d'otages communistes. Les communistes le remercieront en 1944 en faisant un procès truqué au terme duquel il sera assassiné. Ce n'est pas la reconnaissance qui les étouffe, chers amis. Donc Vichy a sauvé des centaines d'otages communistes. Tels sont les faits. Tout cela quand même, tous ces assassinats d'officiers allemands qui causent des représailles lourdes sont mal vus par l'opinion et les communistes vont changer de tactique. Ils ne vont pas renoncer au terrorisme. Petite parenthèse, maintenant faisons une mise au point sur l'influence véritable de la résistance sur le plan militaire. Sur le plan militaire, l'influence de la résistance est égale à zéro quasiment. Pourquoi ? La résistance n'a pas fait reculer d'un centimètre l'armée allemande. Contrairement à l'armée de la revanche, forgée par Weygand, relancée par Dallan dans les combats, comme on l'a souvent dit, qui, elle, a fait reculer l'armée allemande en Italie, en Provence, et plus tard même jusqu'en Autriche et en Allemagne. L'activité de la résistance n'était pas, pour l'essentiel, de nature militaire. Dès lors, la résistance ne pouvait pas faire reculer l'armée allemande. Je vais vous citer les mémoires du plus grand résistant de zone sud et d'un des plus grands résistants tout court, qui est M. Henri Freinet. Que nous dit-il dans ses mémoires ? Il nous dit ceci. L'information et la propagande, un peu comme on fait à ce micro, constitue le plus clair de notre activité. L'information et la propagande constituent le plus clair de notre activité. Il n'était pas question du domaine militaire. Voilà. Donc, la résistance, pendant longtemps, n'a absolument pas intéressé les Français, parce que c'était de la propagande contre le régime de Vichy, qui était massivement soutenu par les Français. Je mets quand même un bémol. Enfin, il y a une exception dans le principe, comme on dit en droit, il y a quand même une résistance d'origine militaire qui, elle, était une véritable résistance et qui a contribué à faire reculer les Allemands puisqu'elle faisait du renseignement. Et le renseignement a pu être utile pour entraver l'effort de guerre militaire allemand. Bon. Mais pour l'essentiel, la résistance, c'était de la propagande contre Vichy. Et donc ça n'intéressait pas le peuple français. Pourquoi ça a un peu changé ensuite, à partir de 1943? Parce qu'il y a eu le STO. Et les jeunes qui ne voulaient pas aller faire le STO, à ce moment-là, ont gagné le maquis. Et c'est dans le maquis que ces jeunes ont été contaminés par le communisme, et notamment le communisme des républicains espagnols. Donc, c'est le STO qui a fourni des troupes au maquisard. Je ne dis pas à la résistance, je préfère dire au maquisard. Alors, deux citations sur les maquis. Qu'est-ce que c'était ces maquis dont on parle souvent? Pierre, tiens, est-ce que vous savez ce que c'était les maquis? Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous en dit. Citation de René Chambre. René Chambre était le bras droit de Giraud, donc il n'était pas dans le camp de Vichy. Hein. Citation. Donc les maquis étaient des bandes de pillards et d'assassins armés jusqu'aux dents, trop souvent à l'aide d'armes et d'argent inconsidérément parachutés par les Anglais, qui ravageaient et désolaient les campagnes comme au Moyen-Âge. Ces bandes étaient composées d'individus sans foi ni loi, se targuant de la qualité de maquisards et prétendant livrer combat aux troupes allemandes occupant le pays. En fait, jamais ces bandes ne cherchaient à aborder l'ennemi. Elles l'évitaient au contraire avec soin, comme trop dangereux, uniquement préoccupées de lutte des classes, avides de piller les châteaux et les maisons bourgeoises, d'assassiner leurs propriétaires. Ces redoutables bandits, souvent emmenés par des Espagnols rouges ou des Juifs polonais, opéraient en toute quiétude, ayant le front de s'attacher sur le visage le masque du patriote et du justicier, se chargeant de châtier ceux qui collaboraient avec l'occupant. Ensuite, citation du résistant, l'abbé Jean-Marie Desgranges. Beaucoup de réfugiés d'Espagne, vétérans des batailles civiles dans la péninsule, se livrèrent à une action souvent sinistre dans les maquis rouges du Midi et en d'autres régions de France. Leur absence totale de sens moral, leurs habitudes de cruauté, de sadisme et leur mœurs très spéciales exercèrent sur leurs jeunes camarades l'influence la plus profonde de toutes. Je suis persuadé que ces éléments étranges et étrangers sont en grande partie responsables des excès qui furent reprochés aux maquis. Voilà. Voilà, chers amis, pour la contamination communiste des maquis. Et après les attentats contre les soldats allemands, eh bien, les communistes maquisards vont faire plus simple. Ils vont décider de s'attaquer directement à la population française. Ce n'est pas en lisant le livre d'histoire que j'ai appris cela, chers amis. Je l'ai découvert en lisant la presse de l'époque. Mon travail à cet égard, que je vais vous dévoiler tout à l'heure, est incomplet, parce que pour qu'il soit complet, il faudrait aller dans les archives des commissariats et des gendarmeries de France. Néanmoins, je prétends que j'ai fait un travail inédit, en relevant dans la presse de l'époque, jour après jour, les attentats communistes. Maquisardo-communistes, si vous préférez. Et je répète qu'on ne peut pas comprendre cette époque sans comprendre le terrorisme, le chaos terroriste communiste. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai découvert qu'en septembre 1943, le régime de Vichy avait fait adopter une loi qui condamnait à mort les personnes qui incendiaient des récoltes. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait un blocus anglais. Je rappelle qu'à l'époque, les Allemands réquisitionnaient les matières premières. Donc il était difficile de se nourrir. Et dans ce contexte, des monstres, il n'y a pas d'autre mot, brûlaient des récoltes. On va longuement revenir là-dessus, chers amis. Donc, à l'été 43, les communistes mettent en œuvre un plan abominable. Affamer le peuple français. Comment ? En détruisant des récoltes, comme je vous l'ai dit, en détruisant du matériel agricole, et en assassinant des paysans. Je rappelle que Madame Lacroix nous dit que tous ces massacres ne visaient pas des gens qui étaient en raison de leur appartenance sociale, religieuse, ou pour des délits d'opinion. Elle nous dit que toutes les personnes qui se sont fait massacrer étaient considérées comme des supplétifs, enfin étaient des supplétifs de l'occupant. Je renvoie à la page 58 du livre de Madame Lacroix. Alors, petite citation de l'amiral Offan au sujet de ces attentats communistes. L'amiral Offan, qui était haut placé dans le régime de Vichy jusqu'à novembre 1942 et qui était très bien renseigné, bien entendu, par la suite. Citation. Les actes terroristes ont été le fait presque exclusif des communistes, soit d'éléments FTP, soit de l'OS. Mais sans le soutien que les mouvements de résistance de toute nuance leur ont apporté, et sans les moyens en armes et en argent des services secrets franco-britanniques de Londres, que Londres leur a prodigué, etc., les résultats n'eussent pas été déterminants. Mais en tout état de cause, je répète que les actes terroristes ont été faits, le fait presque exclusif des communistes. Donc à l'été 43, les communistes ont un plan diabolique, il n'y a pas d'autre mot, qui vise à affamer le peuple français dans l'espoir qu'il se retourne contre le gouvernement. Toute proportion gardée, c'est une technique de gauche. Quand les gauchistes bloquent les services publics, c'est dans l'espoir que la souffrance générée dans la population se transforme en ressentiment contre le régime. Vous suivez mon regard, hein, par rapport à des événements récents. Donc, citation du Petit Parisien, le 12 août 1943. De divers côtés, on signale des incendies dans des exploitations agricoles, soit des récoltes déjà engrangées, soit des gerbiers ou des meules, soit d'appareils de battage. Maintes sinistres de ce genre ont été signalés en une seule nuit, notamment dans l'Allier, près de Bourbon-l'Archambault, et dans les environs de Saint-Poussin-sur-Sioule, ainsi que dans la région de Loches, en Indre-et-Loire, où 7 fermiers ont été victimes des incendiaires. Ceux-ci ont opéré également dans le Vaucluse et dans d'autres départements. Les dégâts sont partout importants. Des quantités considérables de blé, d'orge, d'avoine et de fourrage ont été consumées par le feu, tandis que du matériel de battage était détruit. Du fait de leur fréquence et de leur localisation dans des périmètres déterminés, de tels sinistres ne se présentent nullement comme des actes isolés de malveillance. Ils offrent le caractère d'une véritable campagne mystérieuse de destruction organisée par des terroristes obéissant au mot d'ordre diffusé par certaines radios étrangères d'obédience communiste. Et effectivement, les communistes à l'époque étaient les seuls qui avaient la force d'organisation nécessaire et la possibilité de faire un tel plan concerté. Le 14 août, tout cela continue et la presse relève tous les attentats, donc toutes les destructions de récoltes ou de matériel agricole qui ont lieu. Hein. Donc, incendie d'une batteuse au village de Galandière à Saint-Pourçain-sur-Youle, dans la commune de Saint-Pourçain-sur-Youle. Incendie de deux meules de gerbe de céréales à Murat, dans la commune de Montenay-sur-Allier. Incendie de récolte et de meules et du matériel de battage à La Roche-Meillard. Événement identique à Trébans, à Montenay, à Bessé, à Bourbon, à Cosne-sur-Allier, à Lurcy-Lévis, à Saint-Pont, en Dordogne également, à La Coquille, en Haute-Vienne, dans la commune d'Ouradour-sur-Vair, également dans la commune de Saint-Pourçain-sous-Aix. Donc partout en France, au même moment, incendie de récolte, destruction de matériel agricole. Ce n'est pas l'effet du hasard. Il y a une probabilité absolument impossible que ce soit l'effet du hasard. Et tout cela ne cesse de continuer. 16 août, incendie près d'Étampes. Également incendie à Petit-Ménel, à Limoges, Moulins, Montélimar, Poitiers, Montauban. Alors, le 17 août, des équipes de défense de paysans s'organisent. Le 20 août, des attentats sont relevés contre des batteuses à Saint-Arçon-d'Allier, à Saint-Bérin, à Sioux-Saint-Romain, à Saint-Marie-des-Chazes, à Remingol. Du matériel également détruit dans la région de Toulouse et de Périgueux le 21 août. Le 23 août, destruction de moissonneuses et incendie d'exploitation dans plusieurs communes de Lyon. Destruction de 700 cateaux de blé dans la Côte d'Or. Destruction de 3 bâtiments agricoles à Saint-Marcellin. Destruction de batteuses près de Lille. Incendie de ferme à Aix-les-Bains. Incendie de 6 fermes en Haute-Saône. Incendie de 2 récoltes en Seine-et-Oise. Incendie d'une grange près de Clermont-Ferrand. Destruction de meules dans plusieurs communes d'Artois. Je vous dis, il y a des attentats quasiment tous les jours. Donc ça continue. Et le 20 septembre, par exemple, un individu va se faire arrêter qui s'appelle Gilbert Barnabé. Gilbert Barnabé va se faire condamner par un tribunal de Vichy. Puis entièrement, est-ce que vous pouvez nous dire le camp dans lequel il va être interné?
Est-ce que c'est marqué son camp?
Le camp de...
Riom?
Non. Non, Riom, c'était la cour, je pense. C'était le camp de SEY2SES, je crois.
Mais je n'ai pas dans la capture.
Ce que je suis en train de vous dire, chers amis, c'est que cet individu, vous pouvez trouver sa fiche sur un site qui fait l'annuaire, en quelque sorte, des résistants internés dans le camp de S, je crois, EY2SES. Ce que je suis en train de vous dire, chers amis, c'est que ce terroriste qui a brûlé des récoltes au moment où les Français crevaient de faim est considéré par le système comme un résistant. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème dans la façon dont on écrit l'histoire?
C'est bien S, il y a resté 3 mois et 23 jours.
Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème dans la façon dont on écrit l'histoire quand un individu qui incendie des récoltes est considéré comme un résistant? En quoi le fait d'incendier des récoltes contribuer à faire partir l'occupant allemand? En rien. En revanche, ça faisait crever de faim les Français. Voilà. C'est absolument écœurant. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, tous ces attentats vont continuer et Vichy va adopter une loi qui condamne à mort les personnes qui détruisent les récoltes. Mais le calvaire de la paysannerie ne se limite pas à ça, chers amis. Est-ce que vous avez déjà entendu, chers amis? Dites-le nous en commentaire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des massacres des paysans pendant l'occupation? Vous en avez entendu parler sur Arte, dans les livres de l'éducation nationale? Ben moi, je vous en parlais. J'ai relevé tout ça dans la presse de l'époque. 22 octobre à Mâcon, assassinat de Monsieur Maître, cultivateur, tué d'une balle en plein cœur. 23 octobre, assassinat d'un fermier à Abbeville. 29 novembre, citation. Une dizaine de jeunes gens armés de mitraillettes et de revolvers se sont présentés chez les frères Lacte, cultivateurs à Cruseille en Haute-Savoie, et ont tiré sur eux. L'un, Georges, a été tué sur le coup, l'autre, Marcel, grièvement blessé, a succombé quelques heures plus tard à ses blessures. 14 janvier 1944. Eugène Blineau, cultivateur à Questemberbe, près de Vannes, est abattu par quatre hommes masqués. Je rappelle que Annie Lacroix nous dit que tous les morts tués par les maquisards étaient des supplétifs, en tant que supplétifs de l'occupant. Hein. Assassinat, 3 février, pardon, assassinat d'une cultivatrice de 26 ans à Moret-Saint-Denis, près de Dijon. 8 février, assassinat de Madame Valette, une cultivatrice à Brinoux, près d'Evreux, le crâne défoncé à coups de gourdin et achevé à la fourche. 11 mars, M. Couturier, cultivateur à Moyeux, dans la commune de Busserolles, est assassiné. 14 mars, assassinat d'une fermière à Ploirec, près de Saint-Brieuc. 14 avril, assassinat de M. Henri Baron, laitier, à Derval, d'une rafale de mitraillette. 28 avril, assassinat d'Émile Bauchère, cultivateur à Saint-Servais, abattu à coups de mitraillette. Citation. Alors qu'il revenait des obsèques de son frère, assassiné lui-même il y a quelques jours par des terroristes. 29 avril, citation. Monsieur Anatole Petit, 45 ans, cultivateur, et sa fille Carmen, 22 ans, ont été abattus à coups de revolver par des inconnus dans la cuisine de leur maison d'habitation à Cerdon, près de Poncin. 4 mai, assassinat d'un cultivateur à Soudaine-Navinardière, Monsieur Lafont, citation. Après s'être fait servir à manger, ils, les terroristes, au moment de partir, ont abattu M. Lafont à coups de mitraillette devant sa famille. 5 mai, assassinat d'un cultivateur, M. Auguste Gachet, à Châteauneuf d'Isère. 9 mai, assassinat du cultivateur M. Albert Baudry à Condature-Vézère. 22 mai, assassinat d'un fermier M. Batigaud à Vignery dans la commune de Saint-Martial d'Artanzay. 29 mai, citation. Victorin Lacrosse et Joseph Andrieux, cultivateurs au village de La Méronnière, ont été tués le 19 mai à leur domicile par des inconnus. 12 juillet, assassinat d'une famille entière de fermiers au hameau de Villars, près d'Apt. Et je répète, chers amis, mon travail est extrêmement incomplet, parce que moi, je n'ai eu accès qu'à la presse. Pour avoir une vision précise, la vision totale, je dirais, du phénomène, il faudrait éplucher les archives des commissariats et des gendarmeries. Mais autre question, chers amis, ces terroristes, se sont-ils contentés de tuer des paysans ? Non. Ils ont également assassiné des policiers, des gendarmes, des magistrats, des médecins, des commerçants. Et ceci est assimilé à la résistance. C'est odieux. Odieux. 6 juin 1943. Assassinat du débitant M. Prévost à Évreux. 10 juin 1943. Assassinat de M. Henri Mellet, 58 ans, adjoint de l'ex-maire communiste à Vigneux, abattu à coups de revolver par un cycliste. 16 juin 1943, assassinat d'un garagiste et de sa femme à Montclar-de-Quercy. 26 septembre, assassinat de M. Élie Estrade Boucher. On va nous dire que le monsieur Élie Estrade, qui était boucher, était un supplétif de l'occupant. En vendant ses côtes d'agneau, ses côtes de bœuf, il était suppléant de l'occupant. 27 septembre 1943, assassinat du brigadier Jean Lacor et du gardien de la paix Louis Roger. 4 octobre, assassinat du capitaine de gendarmerie Valet, retrouvé dans un fossé. 8 octobre, assassinat du brigadier Duperron dans un faubourg de Lyon. 11 octobre, assassinat de M. Lespinasse, avocat général près la cour d'appel à Toulouse, alors qu'il se rend à la messe. Celui-ci avait fait condamner à mort un entre guillemets résistant, M. Marcel Langer, qui avait été retrouvé avec des explosifs. Et Mme Lacroix et d'autres, enfin, je ne sais plus si Mme Lacroix le fait, mais d'autres justifient l'assassinat de l'intéressé pour ça. Mais qu'est-ce qu'il comptait faire avec ces explosifs, à votre avis, chers amis ? Qu'est-ce qu'il comptait faire ? Il n'y aurait pas eu de victime française ? On va en reparler dans quelques instants. 13 octobre. Assassinat à Allinges de l'inspecteur de police Ernest Fillon, alors qu'il déjeune en famille. assassiné à la mitraillette à Pont du Château du docteur Marty. Il laisse 5 orphelins. 14 octobre, un Polonais, alors Rapigowski, abat 2 agents à Ricamari. À Annemasse, des inconnus pénètrent dans le cabinet du docteur Pierre Gay à Gaillard, qu'ils ont abattu de plusieurs balles. 28 décembre, le général en retraite Philippon est assassiné à Toulouse. Nous arrivons à l'année 1944. Assassinat de M. Gauthier, commissaire principal. 15 janvier, deux policiers sont abattus à Lille. M. Longuet, maire de Bois-l'Épargny, est assassiné. 18 janvier, donc vous voyez tous les jours, un attentat. 18 janvier, à Angoulême, assassinat d'André Gelérieur, policier de la Sûreté. 19 janvier, assassinat de M. Verdun, président de la chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 22 janvier, assassinat de Charles Chamard, maire de Mont-Saint-Vincent. 27 janvier, assassinat de M. Weber, président de la délégation spéciale de la Ferrière-sur-Risle. 11 février, assassinat de l'officier de paix, Jean-Baptiste Alaphilippe. Assassinat du maire de Touzac, M. Vignon. Assassinat du docteur Touvenet à Nantia. 15 février, assassinat de M. Rollet, boulanger. Voilà, donc assassiner des boulangers, c'était de la résistance. Ah bon ? 16 février, assassinat d'un garde mobile à Annecy. Assassinat de deux inspecteurs de police à Clermont. 19 février, assassinat de Léon Gallet, professeur de droit à la faculté de Grenoble. 25 février, assassinat d'un inspecteur de police à Chambon-Fougerolles. 1er mars, assassinat du maire de Châteauneuf-la-Forêt, M. Breton. 6 mars, assassinat du maire Port-Sainte-Marie, M. Maurice Verdier. 9 mars, assassinat d'un gardien de la paix à Grenoble. On en perd son souffle, hein. 12 mars, assassinat du maire de Guérigny, M. Maurice Vogel. 14 mars, assassinat de l'adjudant de gendarmerie Roussel à Saint-Pierre d'Albigny. Assassinat du pharmacien Maurice Ferrier. 15 mars, assassinat du docteur Tasse de Bar-sur-Seine. 17 mars, assassinat de deux gendarmes dans la commune de Relly. 28 mars, assassinat du gendarme Lauvergeon. 1er avril, assassinat de l'amiral Lenormand. 3 avril, assassinat du maire de Saint-Quentin, M. Émile Delaye. 4 avril, assassinat du gardien de la paix, Jean Gallon dans l'Èdre. 6 avril, assassinat d'Henri Courtier, inspecteur de la police régionale d'État à Lons-le-Saunier. 11 avril, assassinat par rafale de mitraillette du maire de Saint-Martin-d'Ouille, M. Marion. 12 avril, assassinat de M. Henri Adréan, conseiller municipal, à Beaumette. 13 avril, assassinat d'un gendarme à Sémur. 20 avril, citation. Le maire de Soudaine-la-Vinardière, canton de Trégnac, a été assassiné. Son cadavre, aux oreilles coupées, aux yeux crevés, a été découvert dans les bois. 20 avril, assassinat du chef de la brigade de gendarmerie de Rochefort-Montage, M. Georges Mansa. Assassinat du gendarme Mérène, chef de brigade La Salle, dans le Gard. 12 mai, assassinat d'un avocat à Figeac, maître François de Puiseguier. 13 mai, assassinat du maire d'Abondance, M. Blanc. 18 mai, assassinat du maire de Bévenay, en Isère, M. Couturier. 26 mai, assassinat d'un facteur. En quoi assassiner un facteur, chers amis, contribue à la libération du territoire ? Bon, c'est peut-être parce que je suis catholique et contre-révolutionnaire que je ne comprends pas. Bon. 26 mai, donc, assassinat d'un facteur. 17 juillet, assassinat de deux gendarmes dans la caserne de Régnier. Et je répète, mon travail est incomplet. Pour connaître la totalité des massacres, il faudrait éplucher les archives des commissariats et de gendarmerie. Alors, on va vous parler maintenant d'autre chose. Le résistant, entre guillemets, Marcel Langer, dont on dit qu'il y aurait eu des propos antisémites contre lui à son procès, de la part de l'Espinasse, ça n'a jamais été prouvé à cette heure. Donc celui-ci a été condamné parce qu'il avait sur lui des explosifs. Bon. Alors, maintenant, je vais vous parler des attentats contre la population française. Des attentats collectifs, si je puis dire. 8 octobre 1943. Donc, un train se dirigeant vers Dijon déraille entre les gares de Sensey-le-Grand et Varennes-le-Grand, près de Chalon-sur-Saône. Après avoir ligoté le garde-voie, des terroristes ont déboulonné les rails. La locomotive et deux wagons déraillent et restent couchés sur la voie. Le Paris-Marseille-Monaco arrive à toute allure en sens inverse. La collision fait 31 morts. 31 morts. C'est de la résistance, ça. C'est pas des soldats allemands qui se sont fait tuer là. Hein. 2 novembre 43. Le train express 110 Marseille-Lyon-Paris déraille en Saône-et-Loire entre la gare Duchizy et de Tornus. On compte 11 morts. Un rail de 14 mètres avait été déboulonné. 20 janvier 44. Le train express Pau-Toulouse déraille suite à un déboulonnage de rail. 20 morts et 50 blessés. 3 mars, près de Toulouse, une bombe explose dans une salle de cinéma Place Wilson. 3 morts. Faire exploser une bombe dans un cinéma, chers amis, c'est ça la résistance ? Il voulait faire quoi avec ces explosifs, Marcel Rangé, dans la région de Toulouse ? Il voulait quoi ? Il voulait faire des chocolats, des confettis ? Au bout d'un moment, j'appelle les gens à regarder l'histoire à l'endroit. Donc le régime de Vichy a été confronté à une vague de terrorisme inégalée dans l'histoire de France depuis la terreur. Et qu'on n'a pas vu depuis lors. Voilà. Les communistes ne cherchaient pas en premier lieu à libérer le territoire. Ils cherchaient en premier lieu à renverser le régime. Et c'est pas fini, chers amis. Des familles entières se sont faites massacrer. Hein, 1er février 1944, assassinat du couple Arendt-Pincé. 15 février, assassinat de Madame Barral et de son fils à Clèle. 11 mars, au bourg de Hinguinel, deux femmes sont assassinées. 23 mars, assassinat de toute une famille. Un quadruple assassinat, appelé à figurer parmi les plus tristes exploits commis par les terroristes, a été perpétré dans une modeste demeure abritant la famille Soubise à La Peyrade, commune de Nède, en Creuse. 20 bandits ont assassiné devant la porte de sa maison le chef de famille âgé de 48 ans. Puis, avec une fureur sanguinaire, la bande a lâché des rafales de mitraillettes sur ses deux fils, Ernest et Roger, 23 et 24 ans, et sur la sœur jumelle de ce dernier, prénommée Léontine. Qu'est-ce qu'elle avait fait, Léontine ? Elle avait collaboré avec les Allemands aussi ? Monsieur Soubise et son fils Ernest ont été tués sur le coup. La jeune fille et Roger Soubise, le corps criblé de balles, ont été transportés dans une clinique de la Souterraine. 7 avril, citation, des bandits se sont présentés au domicile de Madame Veuve Clos, à Saint-Baldolf. Et 5 balles ont été tirées de revolver sur elle et sur son fils Georges, âgé de 19 ans. Madame Clos a été mortellement blessée, son fils est grièvement atteint. A-t-il survécu ? Je ne sais pas. 28 avril, à Saint-Marcelin, une jeune femme, Madame Fanton, âgée de 33 ans, parlait devant sa porte avec des amis quand des jeunes gens masqués l'abattirent de plusieurs rafales de mitraillettes qui lui tranchèrent la carotide. 11 mai, boucherie. Dans la nuit de lundi à mardi, une bande armée a cerné l'agglomération de Nyons, dans la Drôme, et s'est mise à perquisitionner dans diverses maisons. Les bandits ont tué chez elles, à bout portant, à coups de mitraillette, 5 personnes, dont 2 femmes, M. Colombet, le docteur Georges Esco, M. et Mme Ponce et Mme Bouffenet Espérandieu. Ils ont également dévalisé et saccagé le bureau de poste. Assassinat également de Mme Gladel. Alors elle était, pourquoi ? Parce qu'elle était mère d'un milicien. Voilà, donc on s'attaquait aux familles des miliciens. C'est injustifiable, quoi qu'on pense de la milice. Voilà. Une personne qui n'a pas commis des actes n'a pas à être tenue responsable des actes d'autrui. 26 mai, assassinat d'un Lyonnais et de sa mère à coups de mitraillette. 1er juin, massacre. Des bandits armés ont enlevé le 29 mai à 20h30 6 habitants de la localité Desmontiers en Haute-Vienne et les ont abattus sur la place publique. 20 juillet, assassinat de François Lamy, vieillard infirme de 80 ans à Moulins. C'est un collabo de 80 ans. 26 juillet, assassinat des châtelains dans la commune de Mai, monsieur et madame Cartier. 28 juillet, massacre de toute une famille. 5 bandits armés se sont présentés au domicile de M. Jean Hébré, 40 ans, demeurant à Dijon, qu'ils ont enlevé, ainsi que sa femme, leur fille et deux voisins, M. Chel, 35 ans, et sa femme. Ils ont été emmenés en automobile et abattus à coups de mitraillette à 8 km. Tous ont été tués, à l'exception de Mme Chel, qui a été grièvement blessée. On va se dire, bon, quand même, les communistes n'ont pas osé assassiner des prêtres pendant la guerre. Eh bien, si. Le 7 novembre 1943, l'abbé Amiel, curé de la petite bourgade de Fontaine de Vaucluse, est abattu dans son église de plusieurs balles. Le 20 décembre 1943, l'abbé Sorel est assassiné à Toulouse. Le 15 février 1944, deux prêtres du Lot-et-Garonne, l'abbé Marcel Cordier et l'abbé Laliou, curé de Loubès-Vernac, sont assassinés. Le 10 mars 1944, le curé d'Agette-Aubin est assommé seulement. Le 29 juin 1944, l'abbé Louis Boyer, curé de Monistrol d'Allier, est assassiné. En quoi l'assassinat de prêtres, chers amis, était-il utile à la libération du territoire? En rien. En revanche, c'était indispensable pour créer l'entre guillemets France de demain des communistes, qui naîtrait de la chute du régime de Vichy. Voilà. Voilà pour ce qui est de ces abominables crimes. Et nous arrivons aux semaines qui précèdent le débarquement et aux mois qui le suivent. Et là, les phénomènes que je vous décrive s'amplifient. Et des Français vont être massacrés par dizaines de milliers. Et en premier lieu, les notables. Parce qu'il n'y a pas de révolution communiste sans liquidation des notables. Pensez au massacre des Koulaks en Union soviétique. Citation de l'historien Robert Aron, qui nous dit ceci. Il est des régions entières comme les Charentes en Dordogne ou dans la Haute-Provence, le Limousin, où châtelains et bourgeois sont particulièrement visés par des maquisards étrangers, souvent, ou bien français, pour qui l'appartenance à ces classes dominantes constitue une présomption ou même une certitude d'intelligence avec l'ennemi. C'est un véritable armorial, un annuaire des châteaux ou bottins mondains de province que l'on pourrait constituer avec de telles victimes. Donc on va liquider en premier lieu les aristocrates, toutes les personnes assimilées à la France notable, à la France catholique. Madame Lacroix nous dit qu'on les tuait parce qu'ils étaient considérés comme des supplétifs de l'occupant. Alors, on va prendre quelques petits cas. À Montmorillon dans la Vienne, le baron Henri Reissoult, membre d'un réseau de renseignement en liaison avec l'Angleterre, donc un résistant, est enlevé avec sa femme le 21 juillet. Détenu trois semaines durant dans une porcherie, il est libéré, puis de nouveau enlevé et assassiné le 19 octobre 1944. En Haute-Savoie, à Annecy, le comte de Salles, arrêté dans son château, est assassiné sous les yeux des gendarmes. Dans l'Aude, le 22 août, le comte Christian Lorgeril est arrêté par des FTP puis torturé pendant des jours. Il meurt deux mois plus tard à la suite d'une interminable agonie. Dans le village d'Éclassant en Ardèche, le commandant de Laroc, qui avait camouflé aux Allemands du matériel de guerre, donc un résistant, est abattu. Donc, et je précise aussi qu'il y a eu énormément de viols. Alors, je vous donne un autre exemple de massacre qui concerne la commune de Issijac en Dordogne. Dans la commune d'Issijac, pendant la guerre, un déserteur de l'armée française qui s'appelle Charles Martin et qui était souteneur, donc, arrive. Il arrive dans la commune. Et que fait ce souteneur quand il est dans la commune? Eh bien, il ouvre un nouveau bordel. Et les notables de la commune vont vouloir faire partir l'intéressé et vont vouloir faire fermer le bordel, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de la débauche, tout simplement, dans leur village. Et donc, il va y avoir une intervention du maire, M. Galibert, du curé, du médecin du village, du docteur, donc le docteur Marty, et du dentiste, le docteur Frégnaud. Voilà. Et ils vont intervenir en 1942 pour que l'intéressé, le souteneur, déserteur, Charles Martin, quitte la commune. Donc, on est en 1942. Mais le 7 juin 1944, accompagné de bandits maquisards, Charles Martin fait arrêter donc le maire et sa femme, le docteur le curé et le dentiste. Et il va les faire assassiner, à l'exception de la femme. La femme, pendant plusieurs jours, va devenir la servante des maquisards qui ont tué son mari et les autres notables chez elle, et elle va leur servir, par exemple, à table, les meilleurs vins qu'il y a dans la cave, etc. Le tout quand les intéressés chantaient l'international. Et dans une lettre qu'elle a écrite à André Figras, celle-ci raconte qu'à la table, Qui, des assassins, qui trouvait-on? Je ne dis pas que l'intéressé avait participé au assassinat. Je dis qu'il festoyait avec eux. Qui trouvait-on? André Malraux. Pseudo-résistant. Alors, après la guerre, Charles Martin est passé devant la cour d'assises en 1948. Pourquoi? Parce qu'il avait massacré tous ses notables? Non. Parce qu'il avait mis une balle dans la nuque d'un de ses sbires. Charles Martin va être condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Mais que les auditeurs de l'émission se rassurent, le président de la République, Vincent Auriol, finira par le gracier pour service exceptionnel rendu à la résistance. Mais les bras nous en tombent, chers amis. Qu'est-ce que c'était la résistance, selon la République? J'aimerais comprendre. C'était la libération du territoire ou c'était le renversement de Vichy et la décapitation des notables? Je pourrais aussi vous citer en Haute-Vienne, dans la commune de Ledora, que le fait que des maquisards donc, font immersion pour assassiner le général Noël, le colonel Vetla et sa femme, le notaire et cet autre notable. Voilà. Alors, combien de morts a fait cette épuration sauvage? Le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelait Tixier, à plusieurs reprises a dit qu'il y avait eu 100 000 morts. Mais ce chiffre absolument effrayant fait peur au système. Comment le camp qui se revendique du bien, du bon, des droits de l'homme, de la démocratie, peut-elle assumer d'avoir massacré 100 000 Français? C'est pas possible. Donc ce chiffre, il faut le réduire. À tout prix. Et la première fois que... alors je précise aussi que François Mitterrand, lorsqu'il était ministre pour les réfugiés, oui, pour les réfugiés, a également donné un chiffre sensiblement proche. Laissez-moi vous retrouver ça. C'était quelle page? Un petit instant. Donc, c'était le 16 juin 1946, quand il était ministre des Anciens Combattants. Mitterrand disait que le nombre de victimes civiles pour causes diverses et les victimes, donc dossier à ouvrir, étaient de 133 000 personnes. Donc là-dedans, il n'y avait pas que des massacres de l'épuration, mais en grande partie. Et n'étaient pas comprises dans ces chiffres les victimes civiles des bombardements, je précise. Hein, bombardements alliés qui ont fait 55 000 morts. Donc, vous disais-je, combien de morts? Donc, au début, Adrien Tixier a dit au colonel Passy, l'un des bras droits de Gaulle, qu'il y avait 105 000 morts. Mais ce chiffre ne faisait pas plaisir au système. Alors on l'a réduit. Et sous le gouvernement de Henri Queuil, sous la Troisième République, on a donné comme chiffre officiel celui de 9 065 morts. On divise par 10. Arrêt sur image. 9 065 exécutions sommaires, ça reste une boucherie. Donc même si c'était la vérité, ça serait une boucherie. Et ce serait en gros l'équivalent d'une Saint-Barthélemy. Mais celle-là, cette Saint-Barthélemy-là, on ne vous en parle pas. Parce qu'il ne faut pas souiller le prestige de la restauration, entre guillemets, républicaine, en réalité révolutionnaire. L'historien Robert Aron en parle avec le futur ministre de De Gaulle, Michel Debré, et celui-ci commente ce chiffre en disant « c'est absurde, deux ou trois départements du Sud-Ouest atteindraient à eux seuls ce chiffre ». En 1955, Robert Aron demande au comité d'action de la résistance judiciaire des chiffres. Il n'obtient pas de réponse. Et il demande ensuite des chiffres au ministère de l'Intérieur. Et est-ce que le ministère de l'Intérieur va reprendre ce chiffre de 9 675? Non. Cette fois-ci, on passe à autour de 15 000 morts, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Robert Aron examine l'étude qui lui est envoyée. Et, attendez, est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur? Non, c'est le directeur de la gendarmerie de la justice militaire. Voilà, c'était 14 468 morts. Donc déjà, il y a 5 000 morts de plus que ce qu'on a dit sous le gouvernement Queuil. Donc c'est une augmentation de 50%. Donc on voit bien que le premier chiffre était bidon. Robert Aron reste sur ce chiffre. Et il observe plusieurs choses dans l'étude qu'on lui envoie. Il nous dit premièrement qu'il y a des pans entiers de France sur lesquels il n'y a pas de chiffres. Et comme par hasard, c'est les chiffres où on a le plus tué. Et concernant les chiffres qui sont donnés, Robert Aron les compare à ceux qu'il va trouver, et à chaque fois, on est 2, 3, 4 fois moins, enfin le chiffre officiel est 2, 3, 4 fois moins inférieur à celui qu'on trouve dans les archives. Donc Robert Aron nous dit que le nombre de morts pendant l'épuration est probablement entre 30, selon lui, et 40 000 morts. Moi, je pense que c'est un minimum, et pour avoir le vrai chiffre de l'épuration, on est entre 30 et 100 000 morts. Donc les chiffres de l'épuration sauvage sont entre 3 et 10 Saint-Barthélemy. Voilà. Ajoutons à cela qu'il y a eu 1000 condamnés à mort de l'épuration légale à peu près, et qu'il y a eu 50 000 personnes victimes de ce qu'on appelle l'indignité nationale. L'indignité nationale, qu'est-ce que c'est ? C'est la peine de mort sociale. Vous n'avez plus le droit de voter, vous n'avez plus le droit de bosser pour l'État, pour un certain type d'entreprise, vous ne pouvez plus être fonction des professions libérales, etc. Donc si vous n'avez pas du patrimoine, vous êtes condamné à mort socialement. 50 000 personnes qui se font donc déclasser socialement. Mais Madame Lacouris nous dit qu'il n'y a pas eu d'épuration. Je résume, chers amis. Je résume. Entre 3 et 10 Saint-Barthélemy, donc entre 30 et 100 000 morts dans au niveau de concernant l'épuration sauvage. 50 000 condamnés à la mort sociale par l'indignité nationale. Et 1000 condamnations à mort à peu près pour l'épuration légale. Donc il y a bel et bien eu une épuration. Il a bel et bien eu un massacre pour que la France catholique ne puisse plus jamais renaître. Et pour que les hautes strates de la société deviennent exclusivement gauchiste, si possible communiste. Tels sont les faits. La France notable a été décapitée en 1944. C'est pourquoi la non-épuration en France, Annie Lacouris, poubelle. Voilà. Par honnêteté intellectuelle, comme je l'ai déjà dit au début de l'émission, il y a des choses intéressantes et des éléments factuels intéressants dans le bouquin. Même si le message global, pour moi, est hideux. Voilà. Je rejoins Annie Lacouris lorsqu'elle dit que la République n'a pas cherché à appréhender Marcel Déa, qui était, Marcel Déa, un collaborationniste, qui était parti se réfugier en Italie. Pourquoi ? Une hypothèse avait été faite dès les années 40 par des cercles proches de Pétain. Les gaulo-communistes, in fine, n'ont pas renversé Vichy. Hitler a décapité Vichy en faisant arrêter Pétain le 20 août 1944 et quelques jours plus tôt, en faisant arrêter les membres du gouvernement qu'il a ensuite emmené en Allemagne. Et c'est parce que le pouvoir était vacant que les gaulo-communistes ont pu s'en emparer, ce qui n'a pas empêché les massacres de l'épuration par ailleurs. Bon. Pour en arriver là, il a fallu qu'une manœuvre de Laval d'août 1944 échoue. Laval était allé chercher Édouard Herriot pour que Pétain rappelle officiellement la somme 1940 et qu'on s'arrange entre nous, voilà, pour éviter un maximum de débordements. Mais Laval a été empêché d'agir parce qu'il a été dénoncé par les collaborationnistes et notamment Marcel Déa, et Laval donc a été fait prisonnier. Et un auteur par exemple comme Louis-Dominique Gérard s'interroge, est-ce qu'il n'y a pas une collusion entre Déa et De Gaulle pour empêcher la manœuvre de Laval de fonctionner. Et il est troublant, et Annie Lacouris le montre bien, que alors que Déa était parfaitement identifié et qu'il était parfaitement appréhendable en Italie, jamais on est allé le chercher. C'est troublant. En tout cas, retenez une chose, c'est que ce qui a tué Vichy, c'est le fait que Hitler a fait arrêter le maréchal Pétain le 20 août 1944. Voilà. J'en ai terminé. J'espère ne rien oublier. Est-ce qu'il y a des questions, Pierre Othirmon ?
Il n'y a pas de questions sur... Non. Mais on peut demander aux auditeurs de poser des questions.
On leur laisse 30 secondes, parce que moi, j'ai beaucoup de boulot. Donc, pas de zèle.
Coup d'œil. Avez-vous entendu parler des massacres de paysans par le syndicat FNSEA, son ancêtre, du moins, dans les années 60 ?
Très franchement, non, pas du tout. Faites pas de zèle, hein, Pierre Tirmont, s'il n'y a pas de questions
Non,
par rapport au
non, non,
sujet.
il n'y a pas de questions.
Bon, on va pas insister alors, hein. On va s'arrêter là, chers amis. Donc vous voyez, il y a beaucoup de vérités à rétablir. On vous a vraiment lessivé le cerveau, hein, soyons très clairs. Il n'y a pas eu de résistance communiste pendant la guerre. Il y a eu une résistance, elle n'a pas été communiste. Les communistes avaient d'autres projets pour la France. Ils ont mené une guerre civile. De fait, ils ont réussi. Et le crime de De Gaulle, c'est de s'être allié avec eux plutôt que de s'allier avec Pétain. Alors que plusieurs fois, des mains tendues ont été faites. Hein. Voilà, il y a tant et tant et tant et tant à dire. Le combat pour restaurer la vérité est un combat de longue haleine. Et je ne dois pas le mener seul, chers amis. Hein. C'est à vous tous, au quotidien, de rappeler toutes ces vérités que je vous ai exposées là et que je vous ai exposées dans les émissions précédentes. Voilà. Et rappelez-vous une chose, parallèlement à tout ça. L'armée de la revanche a été forgée par le général Weygand, issu de Vichy. Elle a été relancée dans la guerre par l'amiral Darlan le 13 novembre 1942, selon un plan établi avec le maréchal Pétain le 4 août 1940. La France reprend la guerre le 13 novembre 1942 grâce à l'armée forgée par Vichy, selon un plan forgé par Vichy. Et Pétain approuvera tout cela par télégramme secret. Télégramme secret dont le facsimilé a été publié par Hervé Couteau-Bégari dans sa bibliographie consacrée à Darlan. J'en ai fini, chers amis, et je vous dis à dans 2 semaines.